Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International, dans l'émission qui parle de football en fin d'après-midi sur la radio mondiale. Léopard et écureuil mal partis pour rallier la Côte d'Ivoire l'été prochain. Les sélections congolaises et béninoises ont perdu leurs deux premiers matchs. Comment se rattraper ? Eh bien déjà, en RDC, il semble que l'Argentin Hector Cooper n'en a plus que pour quelques heures. Zinedine Zidane, le Marseillais qui aime l'OM, peut-il entraîner le Paris Saint-Germain ? Les propriétaires qatariens en rêvent. Le président Macron leur a donné un coup de pouce hier. Mais ce rêve du PSG est-il réalisable ? Vent de fraîcheur sur la défense fébrile des Bleus. Le jeune débutant chez les Reds, Ibrahima Konaté, a été appelé pour les deux derniers matchs de l'équipe de France. Premier test réussi, celui de la première conférence de presse. Enfin, deux grands patrons, ex-grands patrons du football, devant des juges, Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, et Michel Platini, ancien président de l'UEFA, comparaissent devant un tribunal suisse pour escroquerie aux dépens de la FIFA. Et vous nous donnerez tous les détails, Étienne Moati, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous avez un pouvoir de savoir ce qui se passe là-bas entre les accusés et le tribunal.
Ben on va essayer.
Il a acheté des juges, disons-le clairement.
Ah bon, ben on racontera ça, si c'est si simple. Bonjour Naïm Moignol.
Salut Annie, salut à tous.
Bonjour Hervé.
Oh bonjour, quel bonheur d'être avec vous, votre compagnie.
Ouais. Il accepte de revenir, de temps en temps il passe.
C'est un Paris. Plaisir tiens, d'être avec vous. Et puis je me sens en meilleure forme que les Béninois et que les Congolais. Le RDC, évidemment.
Eh ben on va en parler. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Pierre Guérin m'a aussi aidé à la préparer. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
C'est fini, il n'y aura pas de miracle pour la République démocratique du Congo. Après sa défaite initiale contre le Gabon samedi dernier à Kinshasa 0-1 et ce revers ici avec toujours un but d'écart face au crocodile du Nil. Pour la République démocratique du Congo, il va absolument falloir se ressaisir.
Une deuxième journée éliminatoire inquiétante pour les Léopards de RDC. Ils sont derniers de leur groupe I après deux défaites. L'une à domicile face aux Panthères du Gabon. Pourtant, on s'en souvient, très diminués par leur mésaventure, leur voyage un peu chaotique. Et puis hier, c'était face aux Crocodiles du Nil, face au Soudan. Ils ont perdu 2-1, ce qui désole le sélectionneur adjoint de l'Argentin Hector Cooper, Zaïra Mouini, au micro de Moana Kabulo.
On a été dominé dans presque tout le domaine. L'engagement, la détermination, la capacité d'accélérer, la capacité à aller récupérer les ballons sur l'adversaire. Certains joueurs avaient une certaine manque de compétition dans le jeu parce qu'il y a certains joueurs qui ont fini le championnat il y a presque deux semaines. Et voilà, on a manqué de détermination, on a manqué de volonté de gagner des duels comme quoi on a perdu le premier match. Et ça nous a sanctionnés.
Alors, ça va si mal que cette défaite, en fait, s'ajoute à une série inquiétante. Il y a eu la défaite au Maroc, en barrage de Coupe du Monde, ce qui les a privés, les joueurs de la RDC, de ce voyage au prochain mondial. Cette année, où ils n'étaient pas non plus à la CAN au Cameroun, surtout, Eh bien, ce sont en 5 matchs, 4 défaites et 1 match nul. Alors, l'adjoint que l'on vient d'entendre de Cooper, eh bien, il ne sera peut-être pas adjoint pour longtemps parce que Cooper ne sera sans doute plus là pour longtemps. Une lettre lui a été adressée par le ministre des Sports de la RDC aujourd'hui.
Logiquement, Naïm, dans son contrat, il aurait dû quitter dans les 6 jours qui suivaient l'élimination mondiale en cas d'élimination. Puis finalement, pour des raisons comme c'est un petit peu le bins actuellement à la FECOFA et que c'est le ministère des Sports qui gère ça, il y a eu, je ne sais pas, un problème et son contrat a été reconduit de manière automatique. Mais il aurait déjà dû partir au mois de mars. Et donc, il a été convoqué aujourd'hui. Il y a une lettre qui est tombée du ministère des Sports, parce que c'est le ministère des Sports qui gère. Ce n'est pas la FECOFA, c'est une façade. Et en fait, il est convoqué là dans les jours qui arrivent où le contrat va être rompu. Donc il va falloir, soit il va être rompu de manière brutale et il va attaquer, soit ils vont trouver un arrangement financièrement, puisque son contrat expire normalement jusque mai 2023. Donc ça veut dire qu'à raison de $55 000 par mois, ou on part du principe que ça commence au mois de juin. Il faudra faire 55 000 fois 11, donc 600 000. Soit on part du principe que ça commence au 1er juillet et ça fera 55 000 fois 10 et ça sera 550 000. Mais de toute façon,
ça coûtera cher.
Le ministère va devoir payer les indemnités de
Mais
Cooper.
Naïm, est-ce que c'est seulement de la faute d'Hector Cooper ?
C'est pas que de la faute d'Hector Cooper. Le foot en RDC, c'est compliqué, vous l'avez précisé. L'équipe ne s'est pas qualifiée sous... Pour la dernière CAN. Sous Florent Ibengué, c'était déjà compliqué. L'entrée, le sélectionneur qui a suivi
Florent Ibengué, il y a eu en tout cas...
Alors, ça a été très bien une partie et ça s'est mal terminé, on va dire. C'est vrai que le fait qu'il cumulait les casquettes...
Oui, l'usure peut-être. Voilà, aussi, il est resté 10 ans.
Il y a eu les différentes éliminations.
Mais même Auchan avec la RDC, puis, ça s'était plutôt bien passé.
Les joueurs, il y a un souci avec les joueurs. Bakambu, par exemple, n'est pas là. Bakambu est fâché avec la sélection puisqu'il y a eu des mots très durs justement après le barrage. Kakuta n'est pas là. Bokani n'est pas là. Les joueurs, on a l'impression qu'il y a un vrai problème d'usure chez les joueurs, presque de manque de motivation, comme si l'élimination en barrage avait été un coup de maillet, alors que finalement, perdre en barrage contre le Maroc, je peux comprendre la frustration, mais vous perdez contre le Maroc.
Surtout que vous avez fait match nul au premier match.
Pour moi,
donc
le plus grave, c'est de ne pas avoir fait la CAN. C'est surtout ça. Exactement. Une CAN à 24, deux qualifiés par groupe, vous n'y allez pas. Ça, c'est une contre-performance. Donc les joueurs sont responsables. Cooper est responsable. Il arrive avec la carte de visite du sélectionneur le plus défensif du monde et il se fait trouer à tous les matchs.
On l'avait vu, la
FECOFA et toutes les personnes qui gèrent normalement, parce qu'il faut aussi préciser que les élections qui devaient avoir lieu le mois prochain n'auront pas lieu.
Oui, parce que depuis le départ de Constant Omari, c'est vrai qu'il y a un vide à la tête de la fédération.
C'est géré par des bureaux, instances, machin. Et pour vous dire vraiment la vérité, il n'y a pas d'appel d'offres. L'appel d'offres pour les candidatures n'est même pas ouvert. On est quand même le 10 juin là.
C'est vrai que c'est un bilan un peu triste, Hervé, parce que justement, Yoro Mangara était il y a 2-3 jours dans l'émission et disait dans son livre Claude Leroy, mais parle du potentiel de la RDC comme étant un potentiel théoriquement phénoménal en Afrique. Ce sont des passionnés, on sait qu'on est très écoutés, très suivis là-bas, justement parce qu'il y a cette passion du football. On a vu aussi à travers les clubs, ils sont un peu moins présents sur la scène africaine, évidemment, le TP Mazembe et le V-Club.
Oui, alors là, on est vraiment au cœur du problème. Hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est désespérant. Je n'ai pas d'autre mot, parce qu'effectivement, il y a un potentiel joueur absolument incroyable en RDC. Et ils sont incapables de fournir 11 joueurs à peu près de bon niveau. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se dire une chose. Le niveau des joueurs individuellement est trop faible par rapport à ce que devrait produire une équipe comme la RDC. Ça, déjà, c'est un fait. En dépit des absences qu'il y avait. Parce que c'est vrai, mais il y avait quand même des Liam Echak.
Il y avait quand même des joueurs
capables de faire quelque chose. Ce qui s'est passé contre le Gabon, c'est proprement scandaleux. Vous avez une équipe, enfin une équipe entre guillemets, une demi-équipe qui arrive, trois quarts d'équipe.
17 sur la fiche.
Sans ses meilleurs joueurs, sans entraîneur, qui arrive, qui débarque à l'aéroport. On les fait un petit peu languir à l'aéroport. Ils arrivent, ils mettent un short, ils vont gagner. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a jamais vu un truc pareil. Donc c'est totalement délirant. Et c'est vrai que contre le Maroc, ils ont fait un match retour. Alors là, totalement fou. Ils ont complètement déjoué. Ce qui a d'ailleurs failli poser problème au barrage, à Bakambu, évidemment, parce qu'on se souvient un peu de l'audio qui était sorti, où il attaquait un petit peu sévère. C'est pour ça qu'il a peut-être préféré parvenir en équipe nationale pour l'instant. Et il attaquait un petit peu tout ce qui s'était fait autour de ce groupe. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui est en déliquescence totale. Mais ne pas avoir... Alors là, je suis tout à fait d'accord. C'est qu'on peut être éliminé par le Maroc, d'une certaine manière. D'autant qu'ils avaient fait un bon match aller, étonnamment. En dépit de l'égalisation en fin de match des Marocains, ils avaient été plutôt intéressants.
Pléthore d'occasion.
Ouais, avec Wissa, qui fait vraiment... Pour le coup, s'il y a un joueur qui s'est plutôt mis en valeur sous le maillot national, c'est bien Wissa.
Très bon avec Brentford, et très bon en RDC.
Mais aujourd'hui, c'est une équipe qui a explosé. Et ne pas être à la CAN, la dernière CAN... Ne pas être à la dernière CAN qui est au Cameroun, c'est-à-dire à côté de la RDC, hein, c'est-à-dire autour en Afrique centrale, mais ça paraît invraisemblable. Donc aujourd'hui, il va falloir un peu remuer
surtout retrouver une
ligne directrice. Et malheureusement, on ne la voit pas venir.
Le TP, qui était quand même un peu absent des compétitions continentales depuis un moment, a fait une belle saison en Coupe de la CAF. Tu as des jeunes qui arrivent. Moi, je veux bien Eliam Echak. Alors, c'est vrai que depuis le CHAN 2016, on l'annonce comme étant une espèce de révélation.
Il est plus jeune que ça.
Et il n'a jamais vraiment confirmé en sélection. Mais il y a quand même des joueurs de talent. Il y a de la jeunesse. Il y a un championnat, même si aujourd'hui les clubs maghrébins, égyptiens ont repris un peu le pouvoir.
Même si attention, le TP Mazembe avait acheté aussi beaucoup de joueurs étrangers. C'était pas nécessairement des Congolais qui formaient le
statut. Une bonne base, mine de rien.
Il y en a eu une certaine époque.
Oui, mais ça servait un peu comme les grands clubs européens, ça servait de base en tout cas.
Ah, mais tout à fait.
Sélection.
Mais de toute façon, mais dire simplement qu'ils maintenant ils sont en Coupe de la CAF, ça veut tout dire. C'est une équipe qui visait la Ligue des Champions africaine. Et aujourd'hui, c'est trusté par les pays maghrébins. Maghrébins plus arabes.
Donc voilà, c'est Afrique du Nord d'une façon générale.
Maghrébins plus pays arabes plus l'Égypte. Donc c'est. Et donc c'est vraiment un peu désespérant.
Là, dans le groupe redresser la barre, il y a la Mauritanie qui est à fond, qui a gagné ses deux matchs. Il y a le Gabon qui est devant et même le Soudan.
Alors, le Soudan, sans leur faire injure, hein, parce qu'ils font leur match et ils ne volent pas leurs points. Mais logiquement, la RDC, le contexte
pourtant
fait que
ils ont mené 2-0.
Hein. Oui, le contexte fait que perdre contre le Gabon, c'est une vraie contre-performance. Mais le Gabon, il est huitième de finaliste de la dernière CAN. Ils ont des qualités, ils ont des joueurs.
Non,
c'est
bien
toujours...
sûr, mais c'était à domicile et le contexte. Et voilà, c'est le ça contexte qui rendait les points possibles.
La défaite contre le Soudan, pour moi, elle est folle. Folle complètement, parce que vous êtes mené 2-0. Et le pire, c'est que vous êtes rapidement mené au score. Vous prenez le deuxième but à 5 minutes de la fin. Et qu'entre les deux, finalement, vous n'êtes pas dangereux. Vous ne créez pas tellement d'occasions. Les frappes cadrées, vous avez assez d'une main pour les compter. Donc, en fait, c'est un non-match. C'est un non-match. Et je vais même te dire un truc. Peut-être pas sur le papier, mais dans le contenu, l'adversaire pour l'instant qui montre les meilleures choses sur le groupe, c'est la Mauritanie.
Ouais,
la Mauritanie, c'est le futur adversaire. Donc c'est-à-dire que potentiellement, tu peux aussi te prendre une valoche quand tu vas aller là-bas.
De toute façon, pour eux, c'est définitif. Hein. Il faut pouvoir se relancer. C'est pas complètement terminé. C'est-à-dire qu'on est sur deux matchs. Hein. C'est pas complètement terminé. Mais je parierais pas aujourd'hui.
Attention.
Être capable de gagner.
Mais les autres, par exemple, ont gagné leurs deux matchs.
Mathématiquement, ça va super vite.
Ah oui, ça va super vite parce que c'est dès le prochain match.
Mine de rien, les 3e et 4e journées. Au mois de septembre. Là, pendant l'été, tu vas changer de sélectionneur ou mettre un intérimaire, une marionnette, peu importe. Tu as des joueurs qui vont se retrouver sur le marché des transferts ou qui ne jouent pas en club et qui n'auront pas plus de temps de jeu sur les mois qui arrivent. Donc, ça se trouve, tu ne sais pas quel groupe tu vas récupérer au mois de septembre. Ça se trouve, ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, ils seront là au mois de septembre. Un mec comme Bakambu, ça se trouve, il va y aller. Sauf que comme il n'a pas joué le dernier rassemblement et qu'il n'a peut-être pas joué cet été avec Marseille, tu ne sais pas la préparation qu'il va faire. Tu auras peut-être la moitié d'un groupe opérationnel. Donc, en gros, tu peux dès le mois de septembre, je ne vais pas dire mathématiquement être hors course.
Ah si, tu peux l'être. Mais
quasiment. Et là, ça serait le drame national.
Mais on a l'impression que le football rattrape malheureusement ce qui est en train de se passer dans ce pays. On sait tous les problèmes en ce moment politiques qu'il peut y avoir, hein, les problèmes même à l'Est. Et ben, ça fait qu'on a l'impression que tout le pays est dans la nasse pour l'instant. Il va falloir vite se relever. Parce qu'il y a vraiment du potentiel. Il y a quelque chose à faire.
Alors, pas mieux. C'est pour les écureuils du Bénin. Eux non plus n'étaient pas de la dernière CAN. On se souvient de cette... rocambolesque aventure, on peut dire, avec la Sierra Leone, les problèmes des tests, tout ça. Bon, bref, ils n'y étaient pas allés. En ce début d'éliminatoire, eh bien, les choses sont encore mal engagées. Deux matchs, deux défaites. Alors, la première, on va dire qu'elle était logique.
Normal.
C'était à Dakar, c'était chez le champion d'Afrique. OK. Mais hier, c'était devant leur public et ils ont perdu face aux Mambas du Mozambique 1-0. Et le sélectionneur béninois revient sur la prestation des siens au micro de Félix Pepelipe.
On a dormi un peu à la défense et puis voilà, le biais est venu. On savait très bien que sur le côté gauche, ils sont très très dangereux. Mais celui qui devait suivre le joueur, il a sous-estimé et puis voilà.
Est-ce que l'absence de Cécile d'Almeida a pesé lourd dans la balance ce soir?
Oui, bien sûr. Vous savez que Cécile, c'est un combattant. C'est un gars qui arrache tout. Mais celui qui l'a remplacé aussi, il a fait un très bon boulot. On ne peut pas dire qu'il a trop manqué à l'équipe.
Deux sorties, deux défaites, est-ce que cela ne va pas handicaper la suite pour la qualification?
Ça peut et où ça ne peut pas aussi, puisque si on arrive aussi à sortir et à arracher les points dehors, je pense que ça ne jouera aucun rôle.
Moussa Latounji, donc, au micro de Félix Pepelipe.
Qui devrait partir, hein, Moussa Latounji. A priori, ce ne sera pas lui sur le banc au mois de septembre.
C'était l'intérimaire de Michel Dussuyer. Il était resté dans la mode en plus des...
Qui avait eu un peu de crédit parce qu'il avait plus ou moins bien réussi, d'ailleurs, le tournoi d'Antalya là, au mois de mars, où il avait fait trois victoires, d'ailleurs, en trois matchs. Non, deux victoires et un nul. Il y a eu nul contre Zambie, je crois. Et non, nul contre le Togo, et ils battent la Zambie. Et bon, vous l'avez dit en lancement, la défaite au Sénégal, c'est logique. Vous allez sur la pelouse du champion d'Afrique et plus, vous êtes mené au bout de 12 minutes. Et en plus, vous prenez un rouge à la 50e. Bon, bah, c'est plié.
Et puis franchement, ils n'ont pas monté. Moi, je ne les ai pas trouvés très, très bons. Hein. Déjà, au Sénégal, l'expulsion d'Almeida s'est expulsée de manière absolument invraisemblable.
Il y a quand même un truc, c'est que mine de rien, en première mi-temps, ils vont deux fois dans les 20 mètres. Il y a un poteau et un arrêt de Mendy monstrueux sur sa ligne. Mounier qui a rentabilisé quasiment 100% de ce qu'ils avaient. Après, sur la deuxième mi-temps, ils explosent. Vous n'avez pas le même réservoir sur le banc.
Et puis, à 10 contre 11, c'est très compliqué.
Et puis, quand tu sors Mounier, tu fais rentrer Mickaël Potier. C'est un bon gars, il a de l'expérience, tout ça, mais il a 8-10 kilos de plus qu'il ne devrait pas avoir. Donc, si, c'est compliqué. Hein,
et sais. Donc, Hervé, là, dans ce groupe, Sénégal, Mozambique, Rwanda, ça va être compliqué aussi pour le Bénin.
Bah là, ils font un début, pour le moins, surprenant, parce qu'on s'attendait quand même à beaucoup plus que beaucoup
et
plus
et faire d'eux. Des points au moins à domicile,
alors,
quoi.
Oui, c'est le minimum. Alors, ils ont apparemment, c'est pas apparemment, c'est ce qui s'est passé. Ils ont été attaqués, le bus des joueurs a été attaqué après le match. Ils ont pris des pierres. Il y a des joueurs qui ont été blessés.
Leurs supporters en colère.
Des supporters en colère. Pourtant, ils étaient
sur sécurisés. Une belle pelouse à Cotonou, en plus.
Avec eux, de gendarmerie. Mmh. Mais ça a été très compliqué. J'ai lu que Jodel Dossou, notamment, a été blessé au pied. Hein. Il a une grosse entaille. Il va me falloir quelques semaines pour récupérer. Donc là, il faut arrêter aussi avec ce genre de comportement. Ils ont perdu. Ça peut arriver. Maintenant, à eux de se reprendre. Mais il faut arrêter aussi de mettre une pression comme ça sur les joueurs. Parce que ce n'est pas comme ça qu'ils vont se relever. Ce n'est pas en se disant, dès qu'ils vont mettre un pied au stade,
si c'était la solution, ça se saurait.
Exactement. C'est pareil. Parce que mine de rien, leur Rwanda, même si c'est la petite équipe du groupe, quand tu vois ce qu'ils font contre le Sénégal, tu te dis qu'ils sont tout à fait capables de prendre au moins un point. Ah ouais. Tu vois. C'est compliqué pour ces équipes-là.
Il y a eu deux autres matchs aujourd'hui, on y reviendra plus tard, mais le Cameroun qui, lui, rentrait dans la danse parce que avec l'élimination, la mise à l'écart du Kenya, ils n'avaient pas eu de première journée. Et ils ont gagné à Dar es Salaam, en Tanzanie. Donc, ils ont gagné sur le score de 1-0. C'était face au Burundi, leur match.
Devant pas grand monde. Hein.
Et puis, alors, le Mali, qui est, alors, lui, sur une magnifique dynamique. Ils ont gagné. Ils avaient gagné, on s'en souvient, leur premier match face au Congo. Et là, c'était 4-0. Et là, Congo-Brazza. Et là, les Aigles, eh bien, ils ont gagné sur le score de 3-1.
C'est un peu trompeur quand même score, parce qu'ils ont été menés à 0 et ils mettent leurs deux derniers buts, 93e, 95e minute.
Ils ont mis du temps à marquer,
vraiment sur le bout, à 10 contre 11, parce qu'Ibrahima Koné aussi s'est fait expulser avant la fin de match. Donc, c'est déjà bien d'avoir pu gagner ce match-là. Mais ça n'a pas été un match simple, visiblement. Non. Alors, je ne l'ai pas vu. Autant Cameroun, j'ai vu, mais
pas vu. C'était contre le Soudan du Sud.
Autre équipe éliminée en barrage. Donc, comme quoi, on peut être éliminé en barrage de la Coupe du Monde et être performant aux éliminatoires de la CAN.
Et eux, éliminés en barrage, avec un arbitrage, je le répète souvent, mais assez scandaleux quand même. C'est assez incroyable. Et ça se trouve, l'équipe de France devrait rencontrer aujourd'hui le Mali et non pas la Tunisie. Mais enfin, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. En tout cas, le Mali, pas à se plaindre de l'arbitrage français-Tunisie.
Qui est dans ce groupe, donc avec le Congo et la Gambie. Allez, on continue et on va revenir sur le terrain européen. Découverte grâce à Laurent Salerno de ce refrain australien. Ce sont des fans de Zizou, les fans les plus célèbres, en tout cas des musiciens. Ils sont australiens dans The Vaudeville Smash. Et je vous invite à aller voir le clip parce qu'il est vraiment plein d'humour.
Je vais faire un clip parce que je suis fan de Laurent Salerno.
allez-y, vous avez le droit de le faire.
Qui est bien plus connu que Zinedine
Zidane.
Mais il est de la tête. Je mettrai un masque de Laurent Salerno et j'irai faire les braquages.
On en parlera dans Radio Foot si vous faites un clip et on le fera écouter à nos auditeurs. En tout cas, Zizou, Zidane, Zinedine. On l'a beaucoup vu ces derniers temps parce que souvent, il se cache là-bas en Espagne. Et on l'a même reconnu malgré la capuche de son sweater au bord des cours à Roland-Garros ou en tribune du Stade de France
et
lors de la
Monaco
finale.
Aussi.
Ah oui, ça m'avait échappé. Lors de la finale de la Ligue des Champions.
C'est une photo parce qu'il est grand-père. Hein, qu'on peut faire.
Ah, déjà
oui, c'est vrai. Vous ne saviez pas, c'est vrai.
Je ne l'ai pas par image.
Moi, je l'ai vu en forêt.
Avec sa capuche, je suppose. En tout cas, la veille de la finale disputée par le Real Madrid, eh bien, écoutez l'ambiance. Il est allé sur un terrain de foot en banlieue et Zinedine Zidane, il attire toujours les foules, quel que soit leur âge. Vous avez entendu ce qu'il crie ? Zizou à Paris. Effectivement, sa présence à Zidane et présence remarquée eh bien, provoque bien des rumeurs, bien des rêves aussi. Le Qatar réorganise son club. On en a parlé ici autour de Kylian Mbappé et ils aimeraient bien avoir sur le banc Zizou. Quelqu'un a décidé de les aider sur le même refrain que son intervention pour faire rester le jeune attaquant français pour la France. C'est le président Emmanuel Macron.
D'abord, je tiens à dire, j'ai pu parler avec Kylian Mbappé, mais il fait son choix en conscience. Et c'est quelqu'un qui l'a montré d'ailleurs, est très mûr, construit sa carrière, son engagement avec beaucoup de sens des responsabilités. Je n'ai pas parlé à Zinedine Zidane, mais j'ai une immense admiration pour lui, le joueur, l'entraîneur. Et on a très envie d'avoir dans le championnat français un sportif et un coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Donc moi, je souhaite pour le rayonnement du championnat français pour la France qu'ils reviennent et qu'ils viennent entraîner un grand club français. Ce serait formidable. Et donc je pense que c'est voilà, mon rôle simplement de dire la France est une grande nation de sport, mais aussi de foot, qui a des publics formidables, qui aiment ce sport. Et c'est important pour nous que les meilleurs qu'on a formés, qui ont parfois été rayonnés à l'international, puissent revenir.
Alors, Étienne Moati.
Il vous fait rire, le président de la République.
Non, c'est vous qui me faites rire parce que je vous vois un peu interdit. Il dit qu'il souhaite que Zinedine Zidane vienne entraîner. Vous avez noté, hein, il dit un grand club. Il ne cite pas le club.
Le président de la République, il est supporter de l'OM. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il ne cite pas le PSG.
Bah oui, mais enfin,
il pense très fort quand même.
Il aime bien aider le PSG, hein.
Eh ben, il aime bien aider les clubs français, il aime bien aider la France en général, j'imagine.
Il pourrait envoyer
Surtout
Zidane.
En période électorale.
Il pourrait pas envoyer Zidane à l'OM ?
Je sais pas s'il en a le pouvoir, mais en tout cas...
Alors, est-ce qu'il a le pouvoir d'envoyer Zidane au PSG ?
À l'OM, ça me paraît très difficile, vu les moyens de l'OM aujourd'hui. Ce serait pas
mais
forcément
pour la
un
beauté
club
de...
pour Zidane. Est-ce qu'il a les moyens d'envoyer Zidane au PSG ? J'en suis pas persuadé. Je pense que Zidane fait ses choix tout seul sans solliciter ni l'avis du président de la République.
Il assure que Mbappé a fait ses choix tout seul aussi. Mais ce genre de petites phrases, Étienne Moati, c'est pas anodin. En même temps, il parle alors d'une grande nation sportive que celle de la France. Souvent, on se plaint ici qu'elle ne le soit pas assez.
On organise bien les finales de Ligue
des Champions. Voilà, c'est à peine 10 jours après la finale de la Ligue des Champions, c'est peut-être pas anodin.
Ouais, je ne sais pas s'il y avait vraiment quelque chose à aller chercher là-dessus. Autant il a parlé, il l'a dit, et Kylian Mbappé aussi, il a parlé à Mbappé, donc avant que Mbappé annonce sa décision.
Ils l'ont dit tous les deux.
Et là, il dit bien qu'il n'a pas parlé à Zidane, donc je ne pense pas qu'il pèse du tout dans le dossier. Je pense que la question qui se pose tout simplement, c'est est-ce que Zidane a envie de prendre un club aujourd'hui ? Moi, j'ai pensé pendant assez longtemps que non, parce que toutes les conditions étaient réunies pour attendre l'équipe de France. Il reste que quelques mois avant la Coupe du Monde et que j'avais le sentiment, en tout cas ce qui revenait un petit peu du côté de la fédération, que quel que soit le résultat, on va dire, Deschamps serait plutôt sur le départ. S'il y avait un échec, évidemment, donc c'était le moment de partir. Et puis s'il y avait un succès, c'était le moment de partir en pleine gloire. Dernièrement, il semble plutôt que Deschamps ait envie vraiment de continuer en équipe de France jusqu'en 2024, qui est le terme un peu du mandat de Noël Le Graët. Pour le coup, peut-être que Zidane commence à se poser quelques questions. Est-ce que vraiment la place va être libre ? Et est-ce que peut-être il n'y a pas moyen de prendre un club pendant 2 ans en attendant 2024 ? Et ce club-là, pourquoi pas le Paris Saint-Germain ?
Hervé ?
Alors moi, à mon avis, la personne qu'il faut convaincre, c'est d'abord Campos. Parce que si Campos est signé au Paris Saint-Germain,
le nouveau conseiller sportif du club.
Mais surtout, c'est que
lui... je ne suis pas si sûr, moi. Parce que des échos qu'on peut en avoir aujourd'hui, en fait, il y a deux lignes qui s'opposent. Celle, en effet, comme le dit Hervé, de Campos, qui lui milite pour Christophe Galtier, qu'il a bien connu à Lille. Et puis, il y a la ligne Qatari, qui eux se disent, mais Galtier pour entraîner le Paris Saint-Germain, mais c'est quoi, c'est rien.
Ils avaient déjà désigné Tuchel. Hein. Oui.
Et donc, ils ont plus envie, évidemment, d'avoir Zidane.
Pas oublier que Zidane est déjà à moitié salarié des Qataris depuis l'organisation de la Coupe du Monde.
Mm-hmm. Non, mais ce qui est certain, c'est que du côté du Qatar, on préfère Zidane. Tout côté, j'allais dire.
On peut les comprendre en même temps.
Oui, ça, on ne va pas le relever. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est quand vous avez pris Campos, à partir du moment où vous lui avez donné un petit peu de responsabilité, Campos, il fait partie aussi un peu de celui qui fait l'équipe. Et j'imagine mal Campos se dire, je vais faire venir Zidane, qui a une aura 50 000 fois supérieure à la sienne, et qui aura son poids, qui aura beaucoup plus de poids que Campos. Et malheureusement, quand vous travaillez avec Campos, il faut que Campos, il ait beaucoup de poids. J'ai la sensation que si vous le faites venir Zidane, d'un seul coup, il va avoir l'impression qu'on lui rogne un peu ses prérogatives, ce qui sera le cas de toute façon. Et ce n'est pas si simple que ça. Donc avant même d'avoir créé un attelage, vous êtes déjà en fin de mettre un peu de nitroglycérine dedans.
Attends. Zidane, entraîneur du Paris Saint-Germain ou pas, en tout cas d'une autre équipe, disons, que l'OM. Écoutons-le, il en parlait sur Canal+. C'était en 2015, il y a 7 ans. Alors c'est intéressant parce que c'était quand même avant qu'il en ait gagné 3 avec le Real Madrid.
Comme vous l'avez dit, je suis marseillais. Donc il ne faut jamais dire jamais, mais ça va être certainement compliqué.
C'est pas interdit, vous l'interdisez ?
Non, je m'interdis rien. Surtout en tant qu'entraîneur. En tant que joueur, c'était peut-être différent. Ouais. Entraîneur, c'est les opportunités qui feront le reste.
Je ne m'interdis rien. Alors effectivement, on ne s'interdit rien. Est-ce que pour vous, ça serait compatible, Zidane, avec le Paris Saint-Germain?
Évidemment. D'abord, Zidane, je vous l'ai dit, il travaille avec les Qataris depuis quand même plusieurs années maintenant. Il ne va pas découvrir Nasser.
Oui, enfin, il avait aidé au moment de la candidature.
Il avait soutenu leur candidature. Il les a rencontrés, il les connaît. Hein, il est le bienvenu, il n'y a pas de souci.
De toute façon, tout le monde du football les connaît,
puis,
je pense.
Puis deuxièmement, Zinedine Zidane, il a beau être né à Marseille, être d'origine marseillaise, Zinedine Zidane, c'est un entraîneur de très haut niveau. Il a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid. S'il signe en France, c'est pour aller au PSG. C'est pas pour aller à Marseille qui joue la Ligue Conférence ou même pour aller à Lyon.
Non, il joue la Ligue des Champions.
Une fois de temps en temps, une fois
tous les
4-5
ans. L'année prochaine.
Oui, une fois toutes les 4-5 ans. Donc là, c'est là cette année. Bon.
S'il est là pour 2 ans.
Le PSG, Zidane, il est évidemment compatible avec le PSG. Il y a des grands joueurs, il y a des ambitions, il y a beaucoup de moyens. Tout est réuni pour que Zidane devienne peut-être aussi le coach qui fera gagner la première Ligue des Champions au PSG. Et ça peut aussi être une source de motivation supplémentaire. Donc oui, bien sûr que tout est compatible.
Moi, la seule interrogation que j'ai dans cette affaire, c'est que s'il décide véritablement de prendre Zidane, il ne fallait pas prendre Campos. Il fallait faire l'inverse, d'une certaine manière.
Oui, mais le projet, le projet, ce n'est pas le projet Campos, c'est le projet Mbappé.
Ah, mais je ne dis pas le contraire. Mais ils ont pris aussi Campos en se disant c'est lui qui va réussir à arrondir les angles aussi avec Mbappé, parce qu'il est très proche de la famille Mbappé, etc. etc. Donc aujourd'hui, alors c'est vrai qu'avec le Qatar, il y a toujours une manière de fonctionner qui est un peu particulière. Donc on peut imaginer qu'ils aient mis la charrue avant les bœufs, que finalement, au dernier moment, ils disent finalement, Zidane, ça pourrait être parfait pour nous. Mais Zidane, ils pouvaient l'avoir depuis longtemps. S'ils avaient décidé de prendre Zidane
ils ne peuvent pas l'avoir depuis longtemps. Et je pense que les choses, elles sont extrêmement claires. C'est-à-dire que si Zidane a envie d'aller au PSG, il est entraîneur du PSG. Je pense que c'est réglé.
Bah oui.
Il n'y a pas de débat là-dessus. Tout Campos qu'il est, son projet de rigueur dans le club, de je ne sais quoi, va disparaître immédiatement si jamais Zinedine Zidane prend son téléphone et il dit à Nasser, finalement,
alors,
je suis d'accord.
Qu'est-ce qu'il ferait qu'aujourd'hui Zidane ait changé d'avis si on lui a demandé.
Je n'ai pas dit que Zidane avait changé d'avis.
Non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il pourrait faire
jusqu'à l'annonce du prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, on va dire que. La possibilité existe forcément parce que Zidane, il a pris déjà quelques mois sabbatiques et peut-être se dit-il, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'équipe de France, ça ne va pas être pour tout de suite et que peut-être il a encore une petite possibilité de faire un grand club et pourquoi pas Paris dans l'intervalle. Mais le projet Galtier avec Luis Campos du côté des Qatariens, évidemment, on a envie de mettre de la rigueur dans le club, on a envie que les joueurs travaillent plus qu'avant et qu'il y ait plus d'autorité. Mais on se dit aussi que Christophe Galtier, franchement, au niveau international, ça pèse assez peu.
Tu peux avoir Zidane et de la rigueur, hein, c'est pas incompatible. Ouais. Et puis Zidane, maintenant, il a quand même, par rapport à il y a un mois, il a quand même la certitude que Mbappé va rester, que Messi va rester, que Ramos va rester. Ça fait quand même des garanties qu'Hakimi va rester. Enfin, ça fait quand même des garanties sur l'effectif, ce qui n'était pas encore le cas il y a un mois et demi.
Il y a Icardi qui va rester aussi.
Oui, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour Zidane, ça.
Pourquoi ça mettrait autant de temps à être décidé ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Enfin, peut-être que je ne saisis pas toutes les subtilités. Mais
de toute façon, le Paris Saint-Germain attend donc d'avoir réglé le dossier Pochettino pour annoncer de toute façon l'arrivée du prochain coach.
Peut-être
donc,
qu'ils attendent d'avoir réglé le dossier du prochain coach pour régler celui de Pochettino aussi.
Peut-être aussi.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, il n'y aura pas d'annonce. C'est-à-dire que si tant est qu'ils... Peut-être ont-ils déjà trouvé le successeur de Pochettino, mais tant qu'ils n'ont pas annoncé le départ de Pochettino, tant qu'ils n'ont pas réglé financièrement son départ, ils ne l'annonceront pas de toute façon.
Ils sont en train de négocier son départ pour lui et le staff. Il y aura une enveloppe à faire. Ils sont en train de gérer ça. Mais de toute façon, Zinedine Zidane, s'il a envie de venir au PSG, il vient. S'il vient, il aura toutes les cartes en main. Il aura l'effectif. C'est pas Campos qui va lui dire je veux ça. Mais Campos, vous pouvez l'utiliser pour l'effectif, pour les joueurs, évidemment, que le directeur sportif. Alors, très naturellement, souvent.
Alors, il n'est pas directeur sportif, il est conseiller.
Oui, pas officiellement.
Parce qu'il y en a un autre, justement. Oui, alors, Antero Henrique, quand même. Il y en a deux, là.
Oui, non, mais Antero Henrique, ça sera l'adjoint de Campos, son bras droit. Puis à l'époque de Kluivert, on disait c'est le directeur du football. La vérité, c'est que c'est directeur sportif. Appelez ça comme vous voulez. Bon, il est naturel que quand il y a un directeur sportif qui vient, il choisisse l'entraîneur. Sauf qu'en l'occurrence, vous êtes au PSG, que les choses se font jamais vraiment comme il faut. Et qu'en plus de ça, on parle de Zidane.
Oui, mais je crois qu'en Campos, elle est négociée pour signer son contrat. Il y avait un truc sur lequel, là, il était ferme. C'est justement le poids qu'il pourra avoir. Parce que dans ces cas-là, il vient pas. Campos, si vous lui dites, de toute façon, je te préviens, tu viens, mais finalement, tes choix,
on est en train de Campos. Les Qataris lui ont dit, nous, on est en négociation avec Zidane, il est possible que ce soit le futur coach. Tu t'imagines bien que quand il vient, il est au courant qu'il y a des négos avec Zidane.
Et nous, c'est ce qui est bizarre, nous, l'équipe, on n'a jamais dit qu'il y a eu des négociations avec Zidane, par exemple. Toujours été écrit que c'est des bruits, effectivement, on a toujours entendu ça, mais il n'y a jamais eu de
pour
négociation.
On n'a pas d'indice.
Moi, je ne sais pas, en tout cas pas d'indice.
Alors, avec ou sans Zidane, alors actuellement c'est sans Zidane, eh ben, on va continuer à parler bleu, mais bleu, équipe de France. Les Bleus à Vienne, alors ils ne sont pas là-bas pour valser ni pour écouter quelconque orchestre philharmonique ou autre, mais ils sont là-bas pour rencontrer la sélection d'Autriche, l'équipe de France qui veut ou doit faire oublier ses deux récentes prestations, un peu pâle, une défaite, un match nul. Un point faible dans cette équipe que l'on a, un des points faibles peut-être, que l'on a identifié dans les émissions précédentes, c'est la défense. On l'a vu un peu bricolée, fébrile, décimée. C'est surtout ça qui explique peut-être qu'elle est bricolée. Raphaël Varane a dû quitter le groupe. Et Didier Deschamps, eh bien, il a sorti une carte de son jeu, il a innové, il a convoqué un tout jeune défenseur, mais déjà un peu aguerri puisqu'il évolue chez les vice-champions d'Angleterre et chez les vice-champions d'Europe. Il s'agit d'Ibrahima Konaté et qui a déjà son refrain à Anfield. Démasquer la bande originale.
Ah oui, Human League. Alors voilà, c'est toute ma jeunesse, si vous saviez. C'était il y a 10 ans.
Faut juste avoir de la mémoire, c'est tout.
En tout cas, les a-t-il remerciés, ses supporters, dans la langue de Shakespeare ? Peut-être, mais écoutez son ton en français, très relâché pour sa première conférence de presse, au premier rang desquels il y avait Antoine Grenier, notre envoyé spécial. Il a expliqué comment il avait appris, justement, que Didier Deschamps le voulait dans le groupe.
J'étais sur un bateau avec mes amis en Grèce. Moi, je t'entendais, t'es en train de s'amuser, en train de rigoler. Et je cherchais mon téléphone comme par hasard et je vois deux appels manqués. Et je décide de rappeler parce que je connaissais pas le numéro. Et j'apprends la nouvelle, c'est vrai que pendant 5 minutes, j'étais perdu un peu. Je disais quoi faire, je voyais mes amis en train de danser et tout. Je pouvais pas appeler ma famille parce que c'était quelque chose de confidentiel. Quand c'est sorti dans les médias et tout, bah, tout le monde l'a su. Et c'était une énorme fierté, que ce soit pour moi, ma famille, mes amis et tout mon entourage. Donc non, j'étais très heureux.
Vent de fraîcheur sur l'équipe de France, Étienne ?
Ah oui, absolument. Il a fait une conférence de presse. Absolument.
Il n'a pas encore un ton formaté, on va dire.
Pas du tout, mais on a l'impression qu'il ne l'aura jamais parce qu'il y a une fraîcheur, mais une fraîcheur naturelle. Non, c'est le sentiment qu'en tout cas qu'on a et qu'ont eu tout le monde. Il a vraiment mis tout le monde dans sa poche, que ce soit lors des entraînements. Dans le groupe, manifestement, il est déjà super populaire. Et auprès des journalistes, il a fait un tabac.
Oui, alors auprès des journalistes, oui, il a raconté aussi.
Sauf de moi, j'ai trouvé ça très moyen, son intervention.
Vous étiez en vacances, Hervé. Hervé, il connaît bien tous les joueurs parce qu'il les a croisés dans les autres sélections plus jeunes.
Bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a la région, etc. Il y en a beaucoup qui viennent de sa région, mais c'est un joueur qui, moi, me semble avoir vraiment une carte à jouer. Ça peut paraître assez incroyable parce que c'est franchement le dernier arrivé. Il a fallu une blessure pour qu'il rejoigne ce groupe-là, mais quand on voit aujourd'hui ce qu'est défensivement l'équipe de France,
c'est vrai qu'on se pose quelques questions.
Énormément de questions. Et moi, il m'a vraiment séduit cette saison par ses qualités physiques, ses qualités même technique.
C'était sa première saison à Liverpool, hein, il venait d'arriver.
Je le trouve finalement extrêmement à l'aise avec le ballon.
D'Allemagne.
C'est un défenseur central qui marque beaucoup de buts.
Il en a marqué deux, de la tête avec les Reds.
Ce qui n'est pas le cas donc, des défenseurs centraux en équipe de France qui marquent finalement assez
Varane,
peu.
Varane
un peu, mais enfin Varane, il faudrait déjà qu'il soit sur pied pour pouvoir marquer des buts. Donc tout ça réuni fait que moi je pense qu'il a une vraie carte à jouer donc pour être dans les 23 ou les 26 si jamais il y a 26 joueurs pour la Coupe du Monde.
Je vais même aller plus loin que toi. Il a fait une bonne demi-saison parce que finalement il est réellement titulaire dans l'axe de Liverpool en retour de Ligue des Champions au mois de février. C'est vraiment là qu'il s'impose. Et il bénéficie de plusieurs facteurs. Il y a la blessure de Varane.
C'est souvent
ça.
Hier, on parlait de Tchouaméni. C'est pareil, c'est des blessures qui font que...
Il y a beaucoup de joueurs qui ont été essayés à ce poste-là et qui finalement réussissent moyennement. Je pense à Upamecano, Jules Koundé, pas transcendant quand il joue. Zouma, je pense qu'on ne le reverra pas. Wesley Fofana.
Lui, c'est peut-être sa taille aussi.
Wesley Fofana.
Oui, c'est une bonne observation parce que, et Hervé va le confirmer, Didier Deschamps, c'est le type de gabarit, le type de joueur qu'il adore.
Bah oui, c'est ça, c'est physiquement, c'est un monstre.
Il fait 1m90. 90. Hein,
mais
je
il
crois.
A même à plus, il a un 94, je crois.
Ah oui.
Il est physiquement, il a l'avantage d'avoir évolué dans une défense à 3 à Leipzig, dans une défense à 4 à Liverpool. Il connaît toutes les équipes de jeunes, donc c'est un gamin de la DTN française. Donc il correspond sur le papier au profil type du gars qui finit en équipe de France. Il a encore quelques marges de progression, des petites erreurs de placement, bien sûr. Le dernier match de championnat contre Wolverhampton, il fait une grosse boulette. C'est comme ça que les mecs marquent. Mais si Klopp lui a confié une partie avec Van Dijk de la charnière centrale de Liverpool dans un moment où Liverpool est engagé sur le titre, sur la Ligue des Champions, sur les deux coupes, c'est qu'il a des qualités monstrueuses. Charge à lui maintenant de les assumer en équipe de France, parce qu'entre avoir une carte à jouer et réussir à jouer la carte, c'est pas pareil, mais au moins il va pouvoir essayer.
Eh bien, écoutons-le encore, Ibrahima Konaté, on va pas se lasser, pas déjà, mais il évoque justement Virgil van Dijk, qui, eh bien, en quelque sorte, est son professeur, enfin, pas seulement, dit-il.
Il n'y a pas que Van Dijk qui m'a apporté aujourd'hui cette saison, c'est l'ensemble du groupe et surtout tous les joueurs, parce que j'ai pu jouer avec Matip, avec Van Dijk, avec Joe Gomez. Et ces trois joueurs, ce sont des joueurs d'expérience qui sont là à Liverpool depuis très longtemps. Et les trois m'ont apporté quelque chose. Après, c'est vrai que Van Dijk aujourd'hui, c'est le meilleur défenseur central du monde à titre personnel, et je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Et c'est vrai qu'il me donne beaucoup de conseils, mais aussi il me laisse jouer mon jeu parce qu'il a confiance en moi et en ma qualité. Donc ils m'apprennent beaucoup au quotidien, mais comme j'ai dit, c'est chaque joueur, que ce soit Sadio Mané ou Fabinho, à n'importe quel poste, ils sont tous là à m'apporter quelque chose que je ne savais pas auparavant.
Hervé, évidemment, quand on est dans un groupe pareil, les noms qu'il a cités là, et qu'on arrive le petit dernier, on ne peut que progresser à l'ombre de ces joueurs.
Ah bah obligatoirement, hein. Là il est à côté de ce qui se fait de mieux au monde, effectivement, avec Van Dijk. Le reste, c'est pas mauvais non plus, hein, parce que Matip, ça reste un très bon joueur. Gomez, il avait été très bon il y a un an et demi. Donc c'est sûr que pour lui, ce qui est assez étonnant, c'est la fulgurance de son ascension, je trouve.
Parce que c'est vraiment février,
très vite. Moi, je l'avais vu, je me souviens, contre Lyon en Coupe d'Europe, hein, quand il jouait à Leipzig. Et il avait été en grande difficulté, pour le moins. Je veux dire, je m'étais dit, c'est un défenseur costaud, solide, puissant, mais c'est pas ultra, ultra technique. Et puis finalement, il s'y
Klopp
est mis.
Klopp l'a repéré.
Oui, il s'y est mis, il a beaucoup progressé, je pense qu'il a beaucoup travaillé, il a beaucoup écouté les autres, et aujourd'hui, c'est plus du tout le même joueur. Et c'est un joueur qui reste jeune, hein. Il a 20 ans. Donc c'est un truc assez incroyable, et il a une puissance physique qui est tout simplement phénoménale. C'est la puissance physique de Zuma avec une sorte de qualité supplémentaire, parce que Zuma, dans l'impact physique aussi, il avait quelque chose d'assez incroyable, de la tête, il prenait absolument tout, dans les impacts sur les balles au sol, il faisait très,
il est
très
plus délié que Zuma.
C'est ça, il a quelque chose en plus.
Il porte
que Zuma,
mieux le ballon, il a une qualité sur la relance.
Et il
n'a
pas peur, visiblement.
Ouais.
Il n'a pas peur parce que souvent il prend la balle, il n'a pas peur de casser les lignes, il n'a pas peur de casser les lignes avec la passe et aussi balle au pied. Alors à côté de ça, il a encore, à mon avis, beaucoup à progresser sur les placements.
C'est
parce
ça.
Que j'ai vu beaucoup d'erreurs. Parce
même
que c'est vrai qu'il a marqué des buts et parfois il faisait des erreurs défensives.
Le dernier match contre Wolverhampton, il fait. Mais bon, il est aussi là pour. De toute façon, il y a un révélateur, c'est Jürgen Klopp. C'est Jürgen Klopp. Si Jürgen
cool,
Klopp te fait jouer et que t'es titulaire, c'est que t'es là. Ouais. Hein, c'est que
ou
t'es
alors
niveau.
T'es très riche.
Ouais.
Si t'achètes ta place.
En tout cas, écoutons-le une dernière fois, mais il a évidemment l'ambition du groupe déjà dans la peau.
C'est une fierté de porter cette cuisson avec les deux étoiles maintenant. Et l'objectif, je pense, de ce groupe, c'est d'en avoir une troisième très prochainement. Et ça commence maintenant, le travail commence maintenant.
Eh bien oui, le travail commence tout de suite et ça sera en Autriche demain soir. On continue et on termine avec un procès en Suisse. Alors, ils ont tous les deux régné sur le football mondial et le football européen et ont tous les deux été emportés par le scandale qui a secoué la FIFA en 2015. Alors, ce n'était pas pour les mêmes raisons, ce n'était pas tout à fait au même moment. Mais Sepp Blatter et Michel Platini sont aujourd'hui face à un tribunal, c'est en Suisse. Ils sont accusés d'escroquerie aux dépens de la FIFA. Mais écoutez, le patron de la FIFA, Sepp Blatter, il ne se sent pas vraiment en danger.
Je suis très confiant. Ça fait 45 ans que je sers la FIFA, le football international. Et c'est ma vie professionnelle. Et maintenant, je dois me défendre un peu. Mais je me défendrai bien avec mon avocat et surtout parce que j'ai la conscience tranquille.
Alors, la conscience tranquille. Étienne Moitié, est-il possible de résumer rapidement cette histoire qui lie ces deux hommes? On sait que c'est une histoire de 2 millions d'euros.
Oui, finalement, l'affaire est assez simple. Il y a eu un versement donc, de 2 millions d'euros, 1,8 million de francs suisses de Sepp Blatter vers Michel Platini, donc qui correspondent en tout cas selon moi à la rémunération de Michel Platini à l'époque où il était conseiller de Sepp Blatter. Mais le problème, c'est que ce versement est arrivé 9 ans plus tard, donc suite à une demande de Michel Platini, et donc la justice suspecte que ce versement est en fait une corruption pour acheter entre guillemets Michel Platini pour qu'il soutienne Sepp Blatter dans une nouvelle candidature à la présidence de la FIFA.
Est-ce qu'il y a un dossier épais qui corrobore ces accusations?
Tout le débat, c'est de savoir, eux disent que donc il y avait un contrat oral, puisqu'il n'y a aucun papier qui délimite précisément donc ce qu'était la mission de Michel Platini et quelle rémunération devait lui être attribuée pour cette mission.
Platini dit qu'il a déclaré l'argent, qu'il a payé les impôts sur cette somme, donc qu'il ne le cachait pas vraiment.
Oui, mais bon, le problème, c'est que le versement est intervenu, comme je l'ai dit, 9 ans plus tard. Donc forcément, ça ouvre la voie à la suspicion. Et puis, il y a eu évidemment le ralliement de Michel Platini à la candidature de Sepp Blatter, donc à ce moment-là, alors que les deux ne s'appréciaient pas beaucoup précédemment. Donc ça ouvre donc la voie à la suspicion. Reste à savoir si le tribunal sera en mesure donc, de déterminer qu'il y a véritablement eu corruption ou que c'était simplement un espèce d'arriéré de salaire qui a été récupéré par Michel Platini.
Il y a quelqu'un qui n'est pas là au tribunal, mais apparemment qui sera objet des propos des avocats, notamment, qui estiment que c'est lui qui a un peu vendu la mèche. Et c'est le président actuel, Gianni Infantino, qui était le numéro 2 de Michel Platini et qui est devenu le calife à la place du calife. Il a remplacé Sepp Blatter.
Oui, c'est-à-dire que Gianni Infantino, donc, qui s'agite beaucoup dans toutes circonstances, dans ce dossier-là, lui, il est suspecté d'avoir informé un petit peu la justice autour de ce dossier, donc pour essayer, entre guillemets, d'enfoncer Michel Platini. Donc, ça peut être quelque chose, on va dire, qui va venir en soutien, entre guillemets, de la défense de Michel Platini, donc qui considère depuis le début que tout ça n'est qu'un complot et qu'on a cherché juste à l'abattre parce qu'il voulait devenir président de la FIFA.
Mais là aussi, il faut des preuves.
Là aussi, il faut des preuves. Après, dans un dossier tel que celui-là, il va y avoir 3 semaines d'audience. Il va falloir voir si on réussit à déterminer bien les choses et si on n'aboutit pas finalement à une espèce de jugement un peu mi-chèvre, mi-chou qui, on va dire, satisfasse un tout petit peu tout le monde, en tout cas qui peine pas trop les uns et les autres.
J'ai une question pour Étienne. Est-ce que c'est vrai que les débats auront lieu en allemand à l'intérieur du tribunal et que ça pose un vrai problème d'un point de vue du droit international, puisque normalement, pour la bonne compréhension de tout le monde, il faut qu'il y ait une langue commune. Et Michel Platini, a priori, les débats seront en allemand et ils ne seront traduits à Michel Platini que lorsqu'il est concerné par la discussion. Pour le reste, a priori, ça ne sera pas traduit. Et je pense qu'au niveau du droit international, ça pose un problème. Est-ce que c'est vrai, cette histoire ?
C'est vrai que les débats ont lieu en allemand. C'est vrai que Michel Platini, donc on ne lui traduit que les parties qui le concernent. Et c'est vrai que ça peut paraître curieux, donc à partir du moment où vous êtes mêlé à un procès, que vous êtes sur le banc des accusés, que vous n'ayez pas donc la compréhension totale des débats, ça paraît curieux. Et en effet, ça pourrait éventuellement, mais enfin, je ne suis pas spécialiste de droit international pour pouvoir le dire à ce micro, mais on pourrait éventuellement considérer qu'il y a une espèce de vice de procédure. Mais enfin, je peux imaginer que la justice suisse y a pensé avant de le faire.
Et est-ce que c'est vrai qu'il y a une vraie proximité entre Gianni Infantino et donc c'est qui, c'est le procureur général, c'est un juge, c'est quoi alors?
Oui, Michael Lauber, c'est vrai
qu'il a perdu son poste.
Il y a eu des éléments. Après, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir le fond du dossier qui ne concerne pas Gianni Infantino.
Oui, bien sûr.
Est-ce que ce versement qui a été fait à Michel Platini correspond à un vrai salaire ou correspond à un acte de corruption donc, vis-à-vis de la FIFA?
Hervé, c'est un peu un triste spectacle. On se souvient du moment du scandale en 2015. Et en même temps, on a l'impression que ça continue à s'égrener et que rien n'a été finalement soldé.
Bon, on en saura déjà un peu plus. Hein. Si ça dure 3 semaines, on verra un petit peu ce qui va ressortir de cette audience-là. Mais ce qui est certain, c'est que beaucoup de gens ont perdu des plumes là-dedans, sauf Infantino au final. Alors que lui-même pourrait être accusé de complicité, d'avoir discuté. On parlait avec le procureur général suisse, Lauber. Mais aujourd'hui, c'est le seul finalement qui s'en est pas mal sorti. Mais peut-être qu'au bout de ces 3 semaines, il peut y avoir, si ce n'est un retournement de situation, on ne peut peut-être pas penser à ça. Mais en tout cas, ça peut permettre, alors comme le disait Étienne, à la fois peut-être à Michel Platini et à la fois l'ancien président de la FIFA, de ressortir, si ce n'est blanchi, mais disons avec un peu moins d'accusations, et pouvoir ressortir peut-être la tête haute. Enfin, c'est l'espoir qu'eux peuvent avoir pour essayer après de rentrer dans d'autres combats. Parce qu'on sait que Platini, il n'a pas perdu non plus l'espoir, peut-être un jour, de pouvoir se présenter.
Platini, mais Blatter, il a 86 ans.
Non, mais Blatter, c'est terminé. Blatter, c'est plutôt une question d'honneur.
Lui, oui, c'est ce qu'il disait. Enfin,
lui, sinon, il s'en moque un petit peu, à mon avis.
Je ne sais pas Etienne. Si Michel Platini espère encore pouvoir devenir président de la FIFA. Mais au-delà de ce dossier-là, il n'en a pas complètement fini avec les ennuis judiciaires. Parce qu'il y a une procédure qui a été ouverte en France par le parquet national financier suite à un déjeuner donc aujourd'hui un petit peu célèbre qui a eu lieu à l'Élysée oui. avec lui Nicolas
en
Sarkozy
2010.
Et donc l'émir du Qatar où là aussi Michel Platini est un peu soupçonné d'avoir entre guillemets donc vendu son vote en faveur du Qatar donc lors de ce déjeuner là donc lui dit évidemment que ce n'est pas le cas et donc cette procédure peut aussi prospérer et recèle aussi des ennuis pour lui éventuellement.
Sauf que ça date de 2010 et qu'on aura la Coupe du Monde en fin de l'année.
Oui, mais ce qui est gênant dans cette affaire, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus, comme son fils avait travaillé aussi pour le Qatar à Michel Platini, donc il y avait tellement de ramifications et tout le monde s'est dit, mais s'il y a eu ce fameux déjeuner pour aller voir Nicolas Sarkozy à l'époque, c'était vraiment pour pousser au vote du Qatar. Alors ce qui est ennuyeux, c'est qu'après, quand vous avez aussi des liens entre les uns et les autres qui viennent se mêler à toute cette histoire-là, c'est compliqué. C'est,
de toute façon, Michel Platini aujourd'hui, s'il doit prendre un poste dans le football, de ce qu'il a pu dire à droite à gauche, il n'y a que le poste de président de la fédération qui l'intéresserait. De la FFF.
Française.
Bah oui, de la FFF. L'UFA, la FIFA, tout ça, ça ne l'intéresse plus. C'est terminé.
Je ne suis pas persuadé de ça. Le poste de président de la fédération française, je ne crois pas que ça le passionne.
Niveau national.
S'il a une opportunité de revenir donc en course pour l'UEFA et surtout pour la FIFA, il la saisira. Maintenant, c'est compliqué parce que dans ce type d'élection, quand vous êtes en place, c'est très difficile de vous déloger.
Mais on a l'impression avec ce procès que malgré tout le scandale qui était sorti en 2015, ce n'est qu'un petit détail par rapport à tout ce qui était sorti en 2015, qu'on avait appris, des tractations.
C'est une bonne observation parce qu'à l'échelle de ce qui a été le FIFA Gate avec donc des corruptions massives, donc dans plusieurs confédérations. On va dire que cette affaire de ce versement de ces 2 millions de francs suisses peut paraître...
Pas mal d'accusés sont décédés depuis, ouais, d'ailleurs,
paraître,
en 10 ans.
Peut paraître assez dérisoire. C'est un petit peu tout le paradoxe de Michel Platini, extrêmement sérieux, puisqu'il a fait une carrière de dirigeant... quand même, qui l'a amené jusqu'à la présence de l'UEFA. Et puis un peu désinvolte aussi, parfois, dans la gestion de ses affaires. Et puis parfois aussi dans sa communication, parce que s'il est embêté par ce déjeuner à l'Élysée, c'est aussi parce qu'il est le seul à avoir dit qu'il avait voté pour le Qatar. Personne ne lui avait demandé de le dire. S'il ne l'avait pas dit, il n'était pas suspecté d'avoir été acheté pour voter pour eux.
Mais Hervé, le football a du mal à sortir grandi de toute cette histoire autour de la FIFA.
Ça fait quelques années quand même quand le football est en plein dedans, effectivement. Effectivement, c'est très très compliqué ce qui est en train de se passer. Et on le voit encore plus, nous qui suivons par exemple le foot africain, ce qui est en train de se passer entre la FIFA, la CAF et toutes les ramifications. C'est pas très joli parfois. Et là, il y a un peu moins de procès, vous me direz.
On peut pas avoir des sommes comme ça, faire rentrer je sais pas combien de nouveaux acteurs dans le monde du foot, des financiers, des consortiums, des groupes. Et des représentants de ceci, cela, et se plaindre que l'argent est sale et qu'il y a des malversations et qu'il y a des magouilles, ça me paraît évident en fait que ça arrive. C'est inhérent. Plus il y a de l'argent, plus il y a des magouilles.
On peut quand même espérer, même s'il y a beaucoup d'argent, que ce soit de l'argent propre et que
On peut aussi ne pas être rêveur, Étienne. Vu les sommes qui transitent, tu t'imagines bien que tout n'est pas forcément.
Non, mais on sait que ça existe, mais on peut espérer que
ça n'existe
plus un jour.
En tout cas, que ce soit un peu éradiqué. Ouais.
Bon, eh bien, il faudra travailler beaucoup autour de ça et peut-être que la justice.
Mais ça fait du boulot pour Étienne, ça. Ah, il est content.
Ouais, c'est sa spécialité. Il ne chôme jamais. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé aujourd'hui à cette édition de Radio Foot International. Demain, vendredi, Café des Sports. N'oubliez pas de nous envoyer vos cartons en vidéo. David Finzel et Pierre Guérin les attendent déjà. Merci à tous et à demain.